Vous écoutez
RMC. RMC. Rotten sans flamme. Intégrale Coupe du Monde.
Attention, Olivier Dembélé, la frappe. Et le but. Ousmane Dembélé a débloqué le compteur en Coupe du Monde. Le ballon d'or se rassure. Le ballon d'or prend confiance.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
On lisait,
eh oui, sous le...
nous les méchants, on est à 18h57 sur RMC, on est toujours dans Rotten sans flamme en mode live dans quelques instants avec ce Norvège, Côte d'Ivoire, Soulé, Diawara, Younes Belhanda sont bien là, Soulé il a mis le chapeau de cow-boy,
ça y est. Dallas,
ah, ouais. Ah, les États-Unis Dallas. C'est demain, hein,
le match c'est des la classe à Dallas de Soulé.
Ouais, c'est la classe, ouais. Et ben moi je suis Gire en plus.
Bon, ah oui, c'est Gire.
Voilà, on est avec Benoît Boutron et Jesse Yon, le Norvégien, le loup, il est là-bas sur place pour nous commenter tout ça.
Ouais, on va rappeler les compos dans un instant, le coup d'envoi qui va être donné d'ici quelques secondes. Younes Belhanda est là également, mais un petit détour par Wimbledon pour une bonne nouvelle côté français, Eric Salio.
Ah oui, une excellente nouvelle. Arthur Fils, qu'on n'avait plus vu sur un court officiel depuis le tournoi de Rome, donc au mois de mai, vient de mettre 3-7 au Belge Collignon. 7-5, 6-1, 6-3, niveau de jeu vraiment impressionnant d'Arthur Fils qui jouera au prochain tour. Le vainqueur du match qui oppose actuellement Stan Wawrinka à Matteo Berrettini.
Merci Eric.
Je peux lui prendre un set à Collignon, donc ça tombe bien.
Et tu restes avec nous Eric parce qu'on va suivre le retour de la reine Serena, hein, de retour en simple à Wimbledon.
Ouais,
on va vivre ce grand moment
d'émotion. Parce qu'il y a un set partout entre Blocks et Zverev.
On espère que ça sera dans Rotten sans flamme.
Bah bon, on le fera demain matin.
On verra.
Mais non, il y a le toit, Jérôme. On a le toit, nous.
Ah, c'est vrai qu'il y a le toit maintenant. Bah oui, t'es à l'abri. Les petits fours, le toit, tout va bien pour toi.
Retournons à Dallas pour ce Côte d'Ivoire-Norvège. En un mot, les gars, oui. Votre pronostic sur ce match, Jérôme, qui va l'emporter, à ton avis?
Écoute, c'est quand même indécis.
C'est dur, hein?
Ouais. Alors, il y a beaucoup de gens. Alors, encore une fois, on joue au pronostic sportif. Mais là, je vois les cotes. Il y a une différence énorme entre
favoris,
la Norvège.
Ah ouais, l'argent.
Un petit peu comme hier,
le Maroc, les Pays-Bas contre
où tout le monde voyait les Pays-Bas s'imposer. Moi, je pense que c'est beaucoup plus équilibré que les cotes l'annoncent.
Ok.
Donc
prolongation.
Après, la Norvège a quand même bien fait tourner contre nous, un peu de fraîcheur. Les Ivoiriens, ils étaient obligés de jouer le coup à fond parce que défaite imméritée contre l'Allemagne. Mais ça reste quand même une équipe. Sur ce qu'on a vu des Ivoiriens, il y a eu beaucoup de bonnes choses sur les dernières semaines. Donc pourquoi pas les Ivoiriens faire la sensation.
Pour moi, la Côte d'Ivoire a tout pour embêter ces Norvégiens avec. Surtout offensivement ou avec un Diomandé, Pépé,
Boni.
Il y a de la vitesse, il y a de la percussion, il y a du talent, il y a de la technique. Et défensivement c'est costaud et surtout leur milieu de terrain aussi que j'aime beaucoup. Donc, mais faire attention face à une équipe hollandaise, norvégienne.
Ah, les Vikings, avec, là, attention. Hein.
Avec le cyborg devant.
Ah, bah, voilà. Il est en mission. Avoir,
pas beaucoup d'occasions donc. Je sais pas. Je mettrai une pièce sur la Côte d'Ivoire quand
même. Le coup d'envoi va être donné, Jérôme.
Le niveau africain a bien débuté avec le Maroc.
Exactement.
Et oui, Younes.
C'est parti ici à Dallas. Le coup d'envoi donné par les Ivoiriens qui vont tenter de remporter leur premier match élimination directe de Coupe du Monde. En même temps, ils ne s'étaient jamais qualifiés après la phase de poule, donc c'est logique. La Norvège, elle, a déjà disputé un huitième de finale en 1998, mais elle l'avait perdu. Donc les deux équipes qui vont tenter d'écrire leur histoire avec un premier ballon qui navigue ici à Dallas dans les airs. Un ballon qui est mal repoussé par la défense centrale de la Côte d'Ivoire avec Noussa, l'ailier de Leipzig sur le côté gauche de l'attaque norvégienne. Il est repoussé par Ibrahim Sangare. Ça va revenir sur David Møller-Wolfe, le joueur de Wolverhampton, contré par Nicolas Pépé. La touche à venir pour les Norvégiens. Tu parlais de toit à Wimbledon. Le toit aussi est fermé ici à Dallas au AT&T Stadium. 75 000 places. Il fait 22 degrés à l'intérieur de ce stade, 35 dehors. Condition de jeu idéale dans ce stade absolument magnifique. 0-0 et une minute de jeu.
Younes, comment tu le vois toi, ce Côte d'Ivoire-Norvège alors?
Est-ce qu'il est là, Younes?
On va le retrouver dans un instant.
Oui, je suis là, désolé.
Ah, ça a été là.
J'étais là. La Côte d'Ivoire, pour moi, est plus favori que la Norvège. Parce que sur ce qu'on a vu, qu'a démontré la Côte d'Ivoire sur le match de l'Allemagne, alors ils ont tous les atouts, que ce soit défensivement, au milieu de terrain, c'est très costaud. Et devant, ça va très vite. Ils ont un peu de manque de concentration par moment. S'ils règlent ce problème, ils peuvent aller très loin de cette compétition. Ils sont fournis de partout. Donc moi, là, je vois bien la Côte d'Ivoire.
Avant de prendre des nouvelles de l'équipe de France, retour au direct. Les premières secondes entre les Ivoiriens et les Norvégiens, Jérôme Sillon.
Première seconde pour l'instant avec le ballon dans les pieds des Norvégiens qui sont en blanc aujourd'hui. Les Ivoiriens qui reçoivent, entre guillemets, eux arborent leur traditionnel maillot orange avec le ballon dans les pieds de la défense centrale avec Christopher Ayer, le défenseur central de Brentford. Le ballon maintenant pour Egem qui évolue à Bologne en Serie A. Il y a pas mal de joueurs norvégiens qui sont en Italie désormais depuis maintenant plusieurs saisons et qui font les beaux jours des clubs italiens. Ballon côté droit pour Alexander Sørloth, il peut lancer, c'est bien joué avec le débordement de Pedersen, le centre deuxième poteau, la première tête d'Erling Haaland, elle est renvoyée par la défense ivoirienne, repoussée par l'axe central des éléphants. Première possibilité là pour les Norvégiens, le centre de Pedersen et la tête d'Erling Haaland.
Ouais, il peut faire mieux. Hein. Alors là, il s'est un peu précipité sur ce bon centre, très bon centre, mais je trouve qu'il avait la place pour peut-être enchaîner un petit contrôle serré et reprise de volée directe. Là, il a fait une tête un peu à la désespérée. Il était assez loin, arrêté, mettre de la vitesse, c'est compliqué. Même pour le Viking et Haaland, mais je trouve que les Norvégiens sont bien rentrés dans le match. Hein. Ils sont un peu timides, ouais. les Ivoiriens.
Tout ce que j'aime pas dans le football, là, regardez ce que font les Ivoiriens. Ils attendent et il y a aucune pression sur le ballon. Ils laissent la Norvège préparer leur attaque tranquillement.
Exact.
Et voilà, donc pas laisser cette pression sur le porteur du ballon. Il faut y aller, ne pas les laisser installer leur jeu, parce que sur les centres, il y a de la taille avec Haaland, ça va être compliqué s'il les laisse jouer comme ça.
Et comment vous l'expliquez alors?
Si tu laisses, comme tu dis, si tu mets pas la pression sur le porteur du ballon, il a le temps de s'appliquer et mettre ballon à Haaland. Et Haaland, dans cette surface de réparation, sait que c'est l'un des meilleurs numéros au monde. Ouais. Et si tu lui laisses le moindre espace, il va l'exploiter. Bon, là, ça n'a pas payé, mais il faut faire très attention.
Il y a des bons passeurs. Il y a Odegaard là, qui vient de tenter une ouverture. Mais c'est quoi? C'est une tactique? C'est un peu de stress? Comment vous l'expliquez, ça? Comme ça, que les Ivoiriens soient attentifs sur les
points? Moi, je pense qu'il y a une façon d'aborder le match. Il y a peut-être qu'ils sont surpris de la justesse technique des Norvégiens. Pour l'instant, ils confisquent le ballon. Hein.
Après, il n'y a pas trop de pression, Jérôme. T'as vu, regarde,
il
les laisse jouer. Tu vois, tu dois mettre une pression, essayer d'enfermer sur un côté. Au moins, tu ne les laisses pas installer le jeu. Et c'est ce qui se passe là. Il les laisse installer le jeu, les laisser aller sur le côté. Ben, c'est ce qui s'est passé sur la première action. Hein. S'il les laisse jouer comme ça, ils vont en avoir des centres et Haaland, il va en prendre une. Hein. Donc,
moi, je suis d'accord avec toi. Et surtout, je pense pas que ça soit la bonne stratégie de les laisser jouer et de faire que des attaques rapides comme ça a été le cas là pour les Ivoiriens. Je pense pas que ça soit la solution. Donc Emers Faé, ça m'étonnerait qu'il ait donné ça comme consigne. Du moins, moi, je serais surpris.
Il a remonté le bloc là, Jérôme. Il a remonté le bloc. Ils sont justement cette offensive amenée par Diomandé et que Boni n'a pas réussi à conclure. Ils sont pas non plus sur leurs 30 mètres. Hein. Le bloc est plutôt médian et ils n'hésitent pas non plus à aller chercher un peu plus haut. C'est vrai qu'ils sont très compacts. Peut-être que ça manque encore un peu d'agressivité là sur le porteur de balle. Et puis on a vu un peu de fébrilité quand même chez Kosonou tout à l'heure pour le dégagement. À mon avis, il y a quand même un peu de nervosité du côté des éléphants aussi qui disputent, on le rappelle, leur premier match élimination directe de Coupe du Monde.
Ouais, c'est un événement aussi pour la Norvège, Jérôme, parce que la Norvège n'était plus habituée aux grands tournois et aux matchs comme ça couperés.
28 ans depuis 1998, la génération d'Alfie Haaland, le papa d'Erling Haaland, vous aviez eu d'ailleurs dans Rotten sans flamme il y a quelques jours. Allez, un bon mouvement côté droit là pour les Norvégiens, justement avec le débordement de Pedersen. Il va très vite, Pedersen, il va aller défier Ghislain Konan. Finalement, il recule, joue derrière lui en direction du capitaine des Gunners, Martin Ødegaard, qui est également le capitaine des Vikings. Et Ødegaard, il a perdu ce ballon, on va le rendre aux Ivoiriens avec une touche sur leur 10 mètres, la sixième minute de jeu à Dallas, 0-0 entre la Côte d'Ivoire et la Norvège. Et vraiment, vraiment, vraiment dans tribune. Il y a deux copes norvégiens qui mettent l'ambiance, avantage Norvège pour le match des tribunes.
Mais on le voit là sur l'action, je ne sais pas ce que vous en pensez Soulé et Younes, mais là ça a été criant, le repli défensif de Diomandé qui court derrière.
Ouais, juste à côté
de lui. Ouais, juste à côté, et puis il ne reprend pas un mètre. Et il laisse le Norvégien. Alors il n'a pas pu centrer derrière, mais installer, si tu veux, son jeu, sa technique. Je pense qu'il doit, il doit faire beaucoup mieux. Et pour moi, ils sont pas encore rentrés dans cette dans ce 16e de finale. Et ils subissent trop. Alors écoute,
il y a manque d'agressivité, c'est vrai.
Ouais, c'est vrai que ça manque d'agressivité.
Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Parce que sur le porteur de ballon, il n'y a pas de. Ouais, Soulé, excuse-moi.
Non, c'est pas grave. Non, mais je sais, peut-être aussi, il y a cette pression aussi, tu sais, de. Le premier match de 16e de finale, un match couperet, c'est que le pied là tu perds, tu rentres chez toi, il y a voilà, il y a peut-être la gestion aussi du match, parce que là on est qu'à 6 minutes de jeu et voilà, ils savent que ça va être long et dur aussi.
Et Diomandé, joueur qu'on va particulièrement observer, Jérôme Sillon, parce que c'est un joueur pisté par le Paris Saint-Germain. Ce sont des infos RMC Sport de Fabrice Hawkins.
On a toujours Guéladoué, le centre de Guéladoué vers Diomandé, justement. Oh, Diomandé, oh, il a un tout petit peu trop juste, quelle occasion. Et il se prend la tête entre les mains, il a raison, Yann Diomandé. Oh, problème de timing là sur un magnifique centre de la droite de Guéladoué. Yann Diomandé, il était parfaitement servi au niveau des 5m50 et ce ballon, il effleure seulement du haut du crâne. Quelle opportunité là pour les Ivoiriens. C'est pas terminé avec Anjouane Bonny à 20 mètres qui va retrouver Yann Diomandé. Il peut décaler maintenant Ghislain Conan. Exter surface, centre du pied gauche, deuxième poteau. Oh, c'est un ballon qui a été enlevé par Möller Wolfe. C'est pas terminé encore avec Nicolas Pépé. Ça y est, ils sont libérés les Ivoiriens. Nicolas Pépé dans la surface de réparation, repoussé par le défenseur de Wolfe. Wolverhampton et Nicolas Pépé va reculer jusqu'à Franck Kessié avec de nouveau Guéladoué, le contre-pressing norvégien. Est-ce qu'il va être efficace? Non. Pépé encore côté droit, Pépé en dans ses dribbles, Pépé dans la surface, il peut centrer. Ouh, l'intervention de Thorbjørn Eggum, le défenseur central de Bologne, qui met ce ballon en corner. Que c'était bien joué de la part des Ivoiriens. 0-0.
Ça y est, elle fait du bien cette première action ivoirienne, hein, Jérôme.
Totalement, ouais. Ça va leur donner confiance déjà techniquement, parce que là ils ont réussi à se faire des passes, à finir par trois centres de suite. Ça s'est joué à peu de choses, comme l'a dit Jérôme. Ouais. Le centre sur Diomandé, il sent bien le coup, il vient pour finir de la tête. Alors il est un peu court, je pense pas que ça soit un problème de technique de jeu de tête, mais plus de timing. Mais en effet, l'action est bien et c'est comme ça qu'on les attend, les Ivoiriens.
Le corner de Nicolas Pépé de la droite, quand on regarde le but de Nuland, le corner de la droite, vas-y Younes, c'est un ballon qui va sortir de l'autre côté.
Avec le ballon, la Côte d'Ivoire ne sera pas embêtée, hein, parce qu'ils ont des joueurs de talent, ils ont des percuteurs, il y a de la vitesse, ils savent garder le ballon. C'est sur le début de match où tu vois essayer de couper les liens avec Bob et Odegaard, qui sont des très bons passeurs, et faire attention à Haaland, couper les liens avec Haaland. Mais avec le ballon, on sait que la Côte d'Ivoire sont capables de faire de belles choses. Ils l'ont démontré auparavant, donc voilà, je m'inquiète pas avec le ballon, c'est plus sans ballon.
Younes, c'est Noussa qui joue. Hein. Oscar Bob est sur le banc de touche. Hein, le joueur qui a été formé à Manchester City. C'est Noussa qui évolue à Leipzig, qui est titulaire sur le côté gauche.
J'ai pas vu la compo. Ouais.
19h10 sur RMC, Rotten sans flamme. On suit ce Côte d'Ivoire-Norvège 0-0. Adala, Jérôme Sillon est sur place. Il nous tient informé dès qu'il se passe quelque chose. On va retrouver Fabrice Hawkins, qui est au plus près de l'équipe de France pour RMC Sport. Alors, salut Fabrice.
On va tout savoir. Là.
Ouais, salut les gars.
Eh ouais, Fabrice, dans 4 heures, un peu moins de 4 heures, le coup d'envoi de France-Suède, 16e de finale de la Coupe du Monde. On voulait parler avec toi de l'état de forme de Ousmane Dembélé, un joueur qui a été beaucoup critiqué au début de la compétition, qui finalement est sur un bilan de 4 buts inscrits en 3 matchs. Il a mis autant de buts que Kylian Mbappé. Est-ce que tu peux nous parler de son état d'esprit et de son niveau de confiance avant d'affronter les Suédois?
Ouais, Ousmane Dembélé est bien mieux avec l'équipe de France, hein, ça c'est une certitude. Et son premier match contre le Sénégal ne reflète pas sa montée en puissance avec les Bleus. Il a déjà été important, ça. On a tendance à l'oublier pour l'équipe de France dans un passé pas si lointain. Souvenez-vous de son but contre la Croatie dans un match qui était bien mal embarqué l'année dernière. Avec sa saison au Paris Saint-Germain, ses 2 Ligues des Champions, son Ballon d'Or, il a pris conscience, Ousmane Dembélé, que c'était un joueur de tout premier plan. Et c'est vrai qu'il a pu être agacé, notamment lorsqu'il est remis en question dès qu'il fait un match moyen. Paradoxalement, il n'est jamais aussi fort que lorsqu'il est au pied du mur entre Ousmane Dembélé. Donc ça c'est son petit paradoxe. En tout cas, ce qui est certain, c'est que lui n'a jamais douté. Dans son entourage, on nous explique qu'il veut faire une grande Coupe du Monde, et avec ses 4 buts en 2 matchs, on en est sûr maintenant. En tout cas, il est loin le temps où il était là principalement pour amuser la galerie. Aujourd'hui, il fait partie des hommes forts de Didier Deschamps.
Est-ce que les doutes sont définitivement chassés pour toi, Jérôme, pour Dembélé?
Bon, écoute, moi, j'ai pas de doute sur le niveau d'Ousmane. Il y a que ceux qui pensent que tout ce qu'il a fait de formidable depuis maintenant plus de deux ans avec le Paris Saint-Germain, que c'est un hasard. Il n'y a pas de hasard. Atteindre ce niveau-là montre que c'est un putain de joueur. Après, c'est juste la place, comme l'a dit Fabrice, la place qu'il a dans l'équipe, un rôle différent du Paris Saint-Germain. Mais il fallait aussi que lui se fasse à cette pression-là. Je pense qu'il a beaucoup plus de pression parce que toutes ses prestations sont maintenant épiées parce qu'il est Ballon d'Or et c'est la rançon de la gloire. Et en effet, il y a des matchs où quand il est un petit peu en dedans, qu'il existe moins offensivement, bah, on se pose des questions sur vraiment son apport en tant que leader de joueur de l'équipe de France. Mais je trouve que là, il a trouvé les clés. Il le doit à personne d'autre sauf à lui. Quand tu mets trois buts comme il a mis trois buts contre la Norvège, le but contre l'Irak, ça fait quatre buts en trois matchs. Bon, ben, on peut dire qu'on est aussi rassuré en termes de stats. C'est le meilleur buteur de l'équipe de France avec Kylian Mbappé. Exactement. Aujourd'hui. Donc, ouais. Donc c'est une arme essentielle. Encore une fois, j'espère, je pense que par rapport à la position qu'il a sur le terrain, contrairement au PSG, qu'il faudra aussi accepter qu'il y a des matchs, ça passera pas forcément par lui, mais par d'autres. Et on a la chance d'avoir Olise Mbappé. Mais par contre, tu sais aussi que quand il va être bien, bah, en général, l'équipe, elle va gagner.
Oui, Younes.
Ah ouais, c'est exactement ça. Dembélé, en fait, on regarde le football pour des joueurs comme Dembélé. Vous vous souvenez quand il était un peu en galère au Barça ou à Dortmund, où il y a eu ses blessures et c'est tout. Mais on a toujours aimé ce joueur parce que il nous fait regarder les matchs et ce qu'il a démontré là sur les deux derniers matchs, surtout le dernier match où il met le triplé. Ouais. Tu te dis ben voilà, c'est ça Dembélé qu'on veut et le en fait c'est par son caractère naturel qui ne veut pas prendre ce leadership peut-être en équipe de France parce qu'il y a plusieurs égos comme Mbappé peut-être, Olise qui essaye de s'affirmer. Vrai. Lui naturellement il a pas ce truc là parce que lui c'est par son jeu, par sa qualité de dribble. Exactement. Par ce jeu fantasque qu'on va l'aimer naturellement. Il a pas besoin de le crier haut et fort. Et au Paris Saint-Germain il a été mis au devant de la scène parce qu'il y a pas d'égo au Paris Saint-Germain, donc on a cherché à avoir cette star, mais lui il acclame pas, il la demande pas. Et ouais, c'est naturellement parce qu'il dégage, par ce talent qu'il a naturellement, bah, qui fait que c'est Ousmane Dembélé, qu'on le regarde, qu'on aime ce joueur.
Ouais. C'est vrai. Soulé. Ah non, mais largement, moi. J'ai juste marqué un triplé en Coupe du Monde en 32 minutes. Je parle que ça parle pour lui. Donc, en fait, Dembélé, je pense qu'il avait besoin de se libérer. Et là, le dernier match, je pense que ça l'a libéré, le fait d'avoir marqué. Ce triplé, déjà ça l'a mis en confiance et c'est ce qu'on attendait de Dembélé, qui se libère un peu parce qu'on a senti un peu je vais pas dire coincé, mais voilà, il fallait qu'il se libère. Et Ousmane Dembélé, quand c'est un joueur libéré, ben c'est quasiment un joueur injouable. Il est tellement dur à charger et voilà, c'est la meilleure des manières pour répondre à tous ces détracteurs, c'était de marquer des buts. Parce que même si contre le Sénégal, il y en a beaucoup qui l'ont critiqué, moi son match je ne l'ai pas trouvé aussi nul que ça. Qatar, parce que défensivement il a fait un travail défensif énorme, mais malheureusement
c'est pour ça qu'il joue un soulé.
Oui je sais, mais malheureusement tu sais que quand tu es attaquant, à un moment c'est bien beau de défendre, mais on va te demander de marquer, alors que maintenant le nouveau football, on veut que les attaquants défendent. Donc il y a plein de choses
pour rebondir sur ce que tu dis et ce que tu disais aussi Younes en termes de personnalité. Ouais. En effet, lui c'est pas lui qui va demander ce rôle de leader en équipe de France, parce que il a pas cette personnalité là mais comme au PSG. Ouais. Et là où tu l'as bien expliqué, c'est par rapport à son positionnement aujourd'hui, le positionnement qu'il a au PSG, où naturellement le jeu, tu sais qu'il passe en priorité par lui.
C'est différent.
Parce que il a cette liberté-là. En équipe de France, c'est un peu plus partagé. On le voit déjà, Kylian Mbappé prend beaucoup de place. Ouais. Il y a Olise aujourd'hui qui s'affirme, et à juste titre, il est très bon. Donc c'est normal. Et vu que tout est un peu partagé, en effet, il y a des matchs où, comme l'a dit Soulé, il y a des matchs où Ousmane, on le verra un peu plus dans le travail défensif. comme Barcola, on l'a vu sur le dernier match où il n'a pas été mauvais, mais plus dans le travail défensif que dans le travail offensif.
Et c'est un vrai point fort, parce qu'en fait, le danger peut venir de partout, et c'est une vraie chance pour l'équipe de France d'avoir
le profil. Point fort, c'est l'humilité qu'il a.
Exactement, t'as raison, Jérôme.
Et l'humilité qu'il a, ça, quand t'es un ballon d'or, ça, je peux te dire qu'il n'y en a pas beaucoup qui peuvent accepter ce rôle-là avec leur équipe nationale.
19h16 sur RMC, Rotten sans flamme, en direct du Floral, la brasserie dans le 9e arrondissement de Paris. On suit ce Côte d'Ivoire-Norvège, Jérôme Sillon, et ça va bien mieux pour les Ivoiriens depuis quelques minutes.
Ouais, ça s'est largement rééquilibré. 16 minutes de jeu, 0-0 entre la Côte d'Ivoire et la Norvège, 16e de finale ici à Dallas. Et la meilleure occasion, c'était tout à l'heure le centre de Guéladoué pour la tête de Diomandé qui n'a pas eu le bon jump pour aller claquer ce ballon de la tête. On a revu la même connexion centre de Guéladoué, Yann Diomandé il y a quelques instants, mais là c'était le contrôle qui laissait à désirer. Ce ballon avait rebondi, c'était difficile à maîtriser pour l'attaquant du RB Leipzig convoité par le Paris Saint-Germain. Pour le reste, les Norvégiens finalement, après 5 bonnes premières minutes, ils ont du mal à s'approcher du but de Yaya Fofana. On rappelle juste la tête en tout début de match d'Erling Haaland qui avait été renvoyé par Kusunu. Mais pour l'instant, on va dire que c'est plutôt la Côte d'Ivoire qui me fait une meilleure impression finalement au fur et à mesure que cette première période avance.
C'est vrai. Tiens, Fabrice est toujours avec nous. Fabrice, tu voulais également nous parler du capitaine Kylian Mbappé, cette relation forte entre Dembélé et Mbappé, 4 buts de chaque côté, et notamment de son rôle dans ce groupe. Il est très proche de Dembélé, on le sait, mais c'est vraiment le vrai patron du vestiaire. Il est vraiment comme ça, encadrant auprès de tous les autres joueurs de l'équipe de France.
Oui, il remplit son rôle de capitaine, de leader tout simplement. Et on le souligne aussi parce que ça n'a pas toujours été le cas. Souvenez-vous à l'Euro 2024, où il est arrivé avec ses soucis.
Ah, on a un souci technique avec Fabrice, on va le retrouver dans un instant. Nouvelle occasion ivoirienne, Jérôme Sillon.
Ouais, avec un joli mouvement là, amorcé par Nicolas Pépé après une belle transversale de Yann Diomandé, un appui sur Guéladoué. Pépé qui tente le 1-2 avec Franck Kessié, et dans la surface de réparation, la défense bloque l'accès au but à l'attaquant de Villarreal, Nicolas Pépé. Mais c'était encore très bien joué avec une belle initiative là, une belle diagonale de Yann Diomandé qui monte en puissance dans cette première période. 18 minutes de jeu, 0-0 entre la Côte d'Ivoire et la Norvège, et des Norvégiens qui pour l'instant au fur et à mesure subissent la possession de balle ivoirienne et ne parviennent pas vraiment à créer du danger. Pour le moment, c'est très inoffensif. Noussa est bien muselé par Guéladoué qui fait vraiment un excellent début de match, le latéral droit du Racing Club de Strasbourg.
C'est vrai qu'il est très bon, Guéladoué. Alors il a été avec son club Strasbourg, mais là autant son match contre l'équipe de France, match
en
de
préparation à Nantes, il était excellent
quand il rentre et tout ça. Et c'est vrai que tu as raison, Jérôme, depuis 18 minutes il occupe bien son poste. C'est vraiment un excellent joueur. Quelle progression lui chez lui. Ça, c'est une bonne affaire pour un club.
Et quelle histoire de famille, encore une fois.
C'est une belle affaire, surtout pour la Côte d'Ivoire.
Eh oui, bien sûr. Mais lui avait fait son choix depuis longtemps. Ouais, mais il avait choisi depuis longtemps, Guéladoué, effectivement, de répondre à la
Côte d'Ivoire. Sûr que. Il n'aurait pas fait tâche avec Paulo Gusto ou Koundé.
Il a été sa place dans les 26 bleus. Eh ouais, on avait dit que oui, d'ailleurs. Retrouvons Fabrice. Soit Fabrice, ça y est, on t'avait perdu sur le rôle de Mbappé dans ce groupe France.
Oui, je disais justement que par rapport à l'Euro 2024, c'est le jour et la nuit. Il avait quelques petits soucis, on le sait, avec le Paris Saint-Germain, même physique, en terminant la saison 2024. Là, ça va beaucoup mieux. Il est pleinement impliqué, en tout cas, dans ce rôle de capitaine, de leader, que ce soit dans le vestiaire où il est plus attentionné envers les plus jeunes, ceux qui disputent leur première Coupe du Monde. Il a offert des petits cadeaux, alors c'est toujours anecdotique parce que c'est les sponsors qui offrent des cadeaux, lui les redistribue, mais il n'est pas obligé de le faire, et c'est quand même un geste de classe. Et puis sur le terrain, il essaye aussi à son niveau, on sait que c'est pas celui qui va défendre le plus, mais de défendre. Souvenez-vous le retour défensif à la 53e minute contre la Norvège. En tout cas, il fait de son mieux pour que ça fonctionne, et c'est noté, souligné par le staff et notamment par Didier Deschamps qui parlait d'un Mbappé en mission hier en conférence de presse.
Et on l'attend ce soir, évidemment, Kylian Mbappé, pour mener les Bleus jusqu'en huitième de finale. Merci Fabrice, on se retrouve un peu plus tard.
On est rassurant quand même. Moi, je vous rassure, le fait que Dembélé aille mieux, marque des buts, c'est pas les câlins d'Mbappé qui ont fait que ça va mieux.
C'est son talent, déjà.
Je vous rassure. Gislain Konan, et l'occasion pour la Côte d'Ivoire après ce bon décalage de Cristinao. La frappe pied droit, c'est pas le bon pied, ça s'est vu, de Gislain Konan, l'ancien latéral gauche du Stade de Reims qui évolue à Gilles Vicente. Il a réussi à entrer dans la surface et la frappe pied droit, elle est pas si mauvaise que ça. Et puis ça passe quand même petit filet.
Il aurait dû enrouler deuxième poteau. Il veut faire
une lucarne.
Non, mais regarde, avec le ralenti.
C'est la frappe typique de celui qui est pas sur son bon pied.
Exactement.
Non, c'est surtout la phase typique d'un défenseur qui monte, qui se retrouve dans une position où il est à 10 mètres du but et il se précipite. Alors que les grands attaquants, ils diront, les grands buteurs, ils te disent que souvent, alors moi je lui en veux pas lui, peut-être qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont réagi comme lui à se précipiter, mais les grands attaquants, ils te diront toujours, il faut trouver le temps, la lucidité, le calme pour après analyser la situation, le déplacement du gardien.
Je suis d'accord avec toi, mais c'est un défenseur, tu
non,
sais,
mais c'est
en
ça.
Tant que défenseur, on est, c'est tellement rare qu'on se retrouve dans la surface de réparation que quand on est
là, il a vu le but, il a vu le but, il s'est dit il faut frapper.
On veut frapper, tu vois. Ouais. Donc on peut pas lui en vouloir, un défenseur.
C'est ça, déjà d'arriver dans la surface, tu te dis mais comment ça se fait que je suis arrivé jusqu'à là.
Et là, j'ai vois les buts, il faut que je tire vite. Il faut que je tire.
Non, mais c'est ça.
C'est ça le danger.
Younes, ça a été exactement ça. On a senti que dès qu'il a fait le crochet, il a vu le but, il s'est précipité, il a frappé.
C'est ça, exactement.
Moi, je suis à 10 mètres, vas-y.
J'ai 10 mètres, il faut que je la mette. C'est bon, elle est dedans. Ouais.
Entre la Côte d'Ivoire et la Norvège à Dallas, on a quand même cette impression qu'on avait retrouvé et qu'on avait apprécié contre l'Allemagne. C'est une belle équipe, la Côte d'Ivoire. Il n'y a que des bons joueurs, Jérôme, ça joue au foot. Là, on est rassuré. Il y a un début de match très compliqué. Il y a du talent dans cette équipe, quand même.
Non, mais déjà, il y a du talent. Ça, c'est indéniable. Tu prends individuellement les. Après, il faut faire jouer cette équipe. Moi, je trouve qu'elle dégage beaucoup de sympathie et de force collective à travers le sélectionneur Emers Faye, qui a fait un gros travail depuis qu'il est là. Et je trouve qu'elle est. Tu sens qu'elle vit bien ensemble. Et ça se traduit. Quand ils sont en difficulté. Tu vois pas un mec qui se prend pour un autre, ils sont là, ils s'aident, ils s'entraident, et ça c'est quand même des signaux qui sont intéressants pour essayer de passer des matchs à élimination directe comme ça. Après, ça veut pas
dire
que
c'est une vraie équipe. C'est une vraie équipe, Jay. Et d'ailleurs, ça se voit aussi dans le management, parce que arriver à faire encaisser à Seko Fofana d'être un remplaçant de luxe désormais, ça prouve quand même toute la qualité du management et toute l'autorité aussi.
Et souvenez-vous aussi avec l'histoire avec Pépé à la
CAN, qui avait loupé la CAN après les déclarations.
Ah oui, où il le prend pas, où c'est un joueur majeur de l'équipe.
Parce que là, il y avait une transition intéressante pour la Côte d'Ivoire, et Yann Diomandé, il a été percuté par un défenseur norvégien. Il n'y a même pas d'avertissement là-dessus. Wow, incroyable, alors que Diomandé, il était parti en contre, il se fait tamponner par Möller Wolfe. En même temps, les deux y vont. Les deux sont en train de courir vers le ballon. Mais bon, il y a quand même une faute de Möller Wolfe. Ça méritait au moins un avertissement, selon moi, pour le défenseur latéral gauche de Wolverhampton, qui est venu mettre un bon tampon là à Yann Diomandé, alors qu'on a aperçu en tribune un certain Dirk Nowitzki.
Je ne sais pas
si ça vous parle.
Dirk.
Les Mavericks.
Il est là, le
Dallas.
Grandeur, c'est qui? La légende de Dallas.
La légende, le joueur de NBA, le joueur de basketball, Dirk Nowitzki.
Présente, bien sûr.
Même si ici, on est dans le stade de NFL, le stade des Cowboys de Dallas. Allez, pause fraîcheur, hydration break, 0-0 entre la Norvège et la Côte d'Ivoire. 24 minutes de jouer ici à Dallas.
Et notre cowboy à nous, c'est Souleymane Diawara. Il va remettre son chapeau de cowboy.
La pause fraîcheur,
0-0 entre la Côte d'Ivoire et la Norvège. 23 minutes de jeu à Dallas. On est là, on en revient pour la suite de cette première période avec Jérôme Roten, Souley Diawara.
Fraîcheur à 20 degrés. Allez,
et Younes Belhanda, tout de suite sur RMC.
RMC, Roten sans flamme, intégrale Coupe du Monde.
Mbappé va être en position de frappe, pied gauche.
Et voilà.
Mbappé qui ouvre le score, la frappe puissante, pied gauche, son 59e but. Quand Messi marque, Mbappé répond 1-0 pour les Bleus.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
19h25 sur RMC, on est toujours dans Roten sans flamme, on est à la pause fraîcheur, Côte d'Ivoire, Norvège, 0-0 pour l'instant, petite domination des Ivoiriens après un début de match un peu compliqué à l'avantage des Norvégiens. On est avec Souley Diawara, on est avec Younes Belhanda, avec Benoît Boutron et avec le Jesse Yon sur place à Dallas. Il va falloir que ça s'active un peu là.
Dans un instant, on parlera, pour se faire plaisir avec Younes, du Maroc. Le Maroc qualifié pour les huitièmes de finale. Ce match à venir face au Canada à 19h05 sur RMC. C'est plus que tout droit pour les Marocains. C'est l'autoroute voie de gauche. Et puis on parlera également de la situation dramatique des Girondins de Bordeaux à 19h45 avec Christophe Dugarry qui sera avec nous, légende des Girondins. Pour l'instant, exclu de toute compétition nationale par la DNCG. Un trou de 9 millions d'euros à combler.
Mais
le club a fait appel de la décision.
Lopez.
Encore une pierre dans le jardin de Gérard Lopez.
Sans déconner.
Retour à Dallas, la fin de la pause.
Le seul avantage avec la pause, avec l'hydration break ici à Dallas, c'est qu'on a un show des cheerleaders, des Cowboys de Dallas, qui sont mondialement connues pour être les meilleures, tout simplement les plus talentueuses. Et effectivement, elles dansent particulièrement bien. Elles ont mis l'ambiance ici au AT&T Stadium. Ça va reprendre dans quelques instants. 0-0. On vous rappelle qu'il y a eu une belle occasion pour Yann Diomandé, mais qui était un tout petit peu court, un problème de timing sans doute sur le centre de Geladoué, une tête d'Erling Haaland, mais c'est le seul tir norvégien quand même, hein. On a eu que 3 tirs depuis le début du match, une seule tentative norvégienne. Ils sont très timides quand même, les joueurs de Solbakken, loin de ce qu'ils ont montré contre le Sénégal ou contre l'Irak. Voilà, il va falloir aussi que les Norvégiens fassent preuve d'un peu plus de caractère. Je suis un peu déçu pour l'instant de leurs 27 premières minutes.
Prépare-toi aux prolongations, Jérôme.
Oh, moi je suis prêt, de toute façon, il est midi ici, hein. Moi il n'y a pas de souci. Hein.
Ah non, mais non,
c'est pas une punition.
Eh bien, écoute, ça dépend des matchs.
Il y en a eu beaucoup hier. Hein.
Ouais, c'est vrai. Ouais. Ah, mais des belles hier, notamment une pour Younes. On va en parler dans un instant.
Ah, bah oui, la prolongation et l'essence de tir au but du Maroc, c'était exceptionnel. Exactement. Et on a failli en avoir une dimanche soir avec le Canada qui s'est qualifié dans le temps additionnel. Pareil pour le Brésil. On aurait
il y avait
pu
un
avoir
peu moins de bonheur hein, pour le Canada. Contre les Sud-Africains, c'était un moment un peu moins agréable. Mais bon, c'est passé quand même. C'est pas le meilleur match qu'on a vu depuis le début de la compétition.
Le Canada contre l'Afrique du Sud, oui. C'était
pour l'instant, pour les nations africaines, ça fait 1 sur 2, hein, puisque qualification du Maroc et élimination donc, de l'Afrique du Sud. On va voir si ça bascule dans le positif avec les Ivoiriens. Et on rappelle qu'il y a 9 nations africaines pour la première fois de l'histoire sur en 10, élimination directe de Coupe du Monde. Le ballon pour Franck Kessié dans le camp norvégien. On est sur le côté gauche avec un ballon pour Yann Diomandé. Il va aller défier Pedersen. Yann Diomandé qui va essayer de partir en dribble. Il a ralenti. Il a ajusté son centre. Oh, ça a été remisé par Nicolas Pépé, pied droit. Eh oui, c'est pas le bon pied là encore. C'est pas le bon pied, Nicolas Pépé. Et du coup, ça s'est transformé en centre plutôt qu'en reprise. Et ça a quand même été dégagé par la défense norvégienne. Mais encore une opportunité. Et encore sur un centre, Jérôme.
Oh, c'est dommage parce que Diomandé, il lui met vraiment un super ballon. Et Pépé, il doit faire mieux. Alors même s'il est sur son pied droit, je veux bien, mais il doit
en
cadrer.
Fait, il veut centrer, non ?
Non. Il rate sa reprise. Il rate sa reprise, il veut la mettre au fond.
Je suis pas sûr qu'il veut centrer. Hein.
Ouais, centrer
quand
sur qui ?
Centrer sur Bonny.
Ouais. Bon, mais il n'était pas là. Il n'était pas là, son Johan Bonny. Le corner, les garçons.
Il met le coup de pied s'il veut frapper.
Non, moi je pense qu'il veut mettre plat du pied au deuxième.
Le corner de Nicolas Pépé de la droite, ça a été renvoyé, ça va lui revenir avec cette passe de Yann Diomandé. Le centre de Nicolas Pépé, il y a de la place, deuxième poteau. Ah, ça va lober Franck Kessié avec le rebond. Et on en reste à 0-0 après 29 minutes de jeu entre Côte d'Ivoire et la Norvège.
Tu sais pourquoi Soulet, je te dis qu'il veut marquer? C'est un gaucher qui te dit ça. C'est du pied droit et il a pas serré assez la suie et elle est partie comme une passe décisive alors que.
Ouais, il a pris un peu du talent, Jérôme.
Ouais c'est vrai.
Du talent. Je pense qu'il veut la prendre à l'intérieur du pied, la mettre deuxième poteau.
Exactement.
Il se manque complètement, ouais.
Younes, c'est ton moment. 19h29, on accueille Edgar Groslo qui est avec nous. Salut Edgar.
Salut Benoît, salut Jérôme, salut tout le monde.
Ah la musique, Edgar, le Maroc qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. C'est tout droit pour le Maroc, Younes Belhanda. Cette qualif au tir au but face aux Pays-Bas. Et Edgar, tu es là pour revenir avec nous sur ce moment magnifique pour le peuple marocain.
On a chialé toute la nuit,
quel bonheur.
Non, c'était un moment magnifique pour eux et je peux vous dire, il y avait tellement d'émotions, que ce soit chez les joueurs, chez les supporters au coup de sifflet final, parce que en fait leur émotion elle vient du fait qu'ils ont cru que le match leur échappait vraiment, déjà parce qu'ils égalisent dans le temps additionnel pour arracher les prolongations et ensuite ils touchent deux fois les montants pendant la séance de tir au but, ils sont passés par toutes les émotions et ça s'est senti chez les supporters. Écoutez,
mais c'est le match le plus délirant de toute la Coupe du Monde. Mon cœur, mon ventre, 165 BPM, j'allais mourir. Je pensais que c'était la fin. On réussit. Mais à la fin, on a gagné.
On est très fiers de notre équipe. On est vraiment, vraiment heureux. On va y aller loin dans cette compétition. On est venu ici pour prendre la coupe et le ramener au Maroc.
Aujourd'hui, ils ont démontré que c'est une équipe aussi bonne que la France, le Brésil, l'Argentine.
Vive le Maroc !
Bon, peut-être que le supporter valois, en tout cas il est confiant, mais ce qui est sûr, et il a raison, c'est que le match d'hier, il envoie quand même un sérieux message, hein. Ça veut dire que le Maroc fait partie des candidats sérieux pour le titre, et le sélectionneur Mohamed Ouabi, il sait que son équipe a changé de dimension ces dernières années.
L'objectif, c'est de croire en soi. Cette Coupe du Monde au Qatar, elle a changé les mentalités aussi. Donc c'est clair que là, maintenant, depuis quelques années, le Maroc et les joueurs marocains croient en eux, les supporters croient aussi que c'est possible. Et ça, c'est très important parce qu'ils sont exigeants, mais ils nous sentent capables d'aller loin. Je pense que la clé, c'est de savoir que personne ne peut nous arrêter si on fait les choses comme il faut.
Bon, il y a beaucoup de confiance, faudra pas se rater en huitième face au Canada. Et si tout se passe bien pour eux et pour les Bleus, on pourrait avoir un France-Maroc.
Aïe, aïe, aïe. Ça ferait un magnifique quart de finale. Merci Edgar Rollo. On a la réaction dans un instant de Younes Belhanda. Bah vas-y Younes, parce qu'il y a un arrêt de jeu justement entre la Côte d'Ivoire et la Norvège. T'as vibré Younes l'année dernière.
Vous savez, le signal c'est même pas le Maroc qui l'a donné, c'est la Hollande qui l'a donné en jouant à 5. Et la déclaration que j'ai vue de Coman à la fin du match, il dit: si je n'avais pas choisi de jouer à 5, on serait même pas allé en prolongation.
On n'aurait pas atteint la prolongation. Il l'a dit. Ouais. Exactement.
Et il a dit ça. Donc vous voyez le message déjà que le Maroc fait peur à ses adversaires. Et voilà, ils sont pris au sérieux. Et ils l'ont démontré tout au long du match où la Hollande attendait en bloc médian et attendait les contre-attaques. C'est le but qu'on prend. C'est sur un dégagement du gardien, une déviation et un contre à 2000 à l'heure de la Hollande. Et ils n'ont rien montré. Ils ont été peureux. Ils ont attendu les erreurs des Marocains. Et moi, c'est ce que je voyais pendant le match. Il fallait que les Marocains prennent leur temps. Ils ont pris ce but ou ils ont encaissé ce but. Après, ils ont été un peu dans
l'urgence.
Exactement. Et voilà. Mais sinon, le match, ils l'ont bien joué du début à la fin. Ils ont été dans les bons temps. Ils savaient quand il fallait accélérer, quand il fallait garder le tempo pour pas, évidemment, pas perdre ces ballons au milieu de terrain qui nous exposaient à des contres. Mais vraiment, le Maroc, oui, a vraiment fait peur à cette nation qui est les Pays-Bas où on les voyait frileux et fébriles.
Et puis Jérôme, c'est dans le jeu qu'elle est séduisante, cette équipe marocaine.
Oui, parce qu'elle propose un football qui est agréable à voir. C'est-à-dire qu'ils aiment avoir le ballon, ils aiment essayer de créer du jeu à travers des bonnes percussions ou des bonnes passes. Le jeu collectif, il est quand même bien huilé. Mais c'est pas nouveau. Ce que je veux dire, les derniers résultats du Maroc parlent pour eux. C'est pour ça qu'avant le match, on s'était amusé sur le jeu des pronostics favoris, pas favoris. Moi, je trouvais que les gens étaient durs sur l'analyse du Maroc par rapport aux Pays-Bas. Moi, je le voyais.
Ouais,
alors, ouais. Ça m'a donné raison. Younes est saoulé hier techniquement parlant, le contrôle passe, la façon de jouer ensemble, que le Maroc est supérieur, ils l'ont montré. T'as 70% de la balle hier en termes de possession, donc ça veut dire qu'ils leur ont confisqué la balle. Alors oui, en effet, après, face à un bloc bien regroupé, médian, comme tu dis, ou par moment bas, bah, c'est pas toujours facile de trouver les bonnes solutions. On l'a vu, hein, les joueurs offensifs marocains hier, surtout Diaz, a été un petit peu... on va dire décevant sur le match d'hier, mais le sélectionneur n'a pas hésité, il a tenté des choses, et c'est ça qui a fait que le Maroc est revenu. Après, franchement, en prolongation avant les pénalties, ils doivent gagner,
hein. Il n'y a pas photo.
L'action de Raimi, mais c'est ce que je te dis, même avec un bloc assez médian, un peu bas, où je savais, moi, avant le match, quand il a mis cette composition à 5, je savais qu'il allait miser sur la vitesse des ailiers et de trouver un point d'appui. Mais ils ont quand même réussi à trouver des occasions à se faufiler. T'as une action avec Hakimi où il joue l'action solo, où il peut la décaler, la remettre en retrait à l'Ainaoui. Ouais. Ils ont eu quelques occasions nettes où ils auraient pu finir le match. Vrai. Donc ils arrivent à se créer des occasions. On a pêché par moment le Maroc précédemment avec des blocs bas où on n'arrivait pas à trouver ces occasions à finir. Et ben hier, ils ont démontré qu'ils arrivaient même avec des blocs un peu médians ou bas à trouver des solutions, à trouver des occasions de but. Et ça, c'est tout à l'honneur de l'entraîneur qui a encouragé cette équipe à prendre les devants et à prendre les rênes avec des joueurs comme Saïbari qui est en pleine confiance. On parle un peu moins de Alkanous. Pour moi, il fait une Coupe du Monde exceptionnelle. Surtout qu'il joue sur le côté gauche. Ouais. Il fait des exploits, des fois individuels. L'entrée de Talbi où il a pas hésité
Il met une galette à Diop.
Elle est exceptionnelle. Mais tu vois, des joueurs qui n'hésitent pas,
C'est sur ces gestes-là où tu te dis que le Maroc il a quand même passé un cap, tu vois, de créer du jeu même avec une énorme pression. Il restait quelques minutes, il fallait le geste juste, les changements du sélectionneur. Ouais. En fait, tu sens que toutes les planètes sont bien alignées que en plus hier, franchement, le football a gagné. Hein. Ouais. Bah, l'équipe qui a proposé le plus de choses a gagné le match et tant mieux parce que ça n'a pas été le cas de tous les qualifiés en huitième de finale.
Soulé, c'est tout droit pour les Marocains.
Lui, il attend. Lui, il attend le Sénégal.
Parce que, comme je le dis depuis le début, j'essaie de promouvoir entre guillemets vrai, le football
marocain.
Africain.
Ah, africain.
Africain, pour, parce que c'est vrai.
T'arrêtes pas de le dire.
Non, mais c'est vrai, parce que.
Notamment en Sénégal et Maroc, vous êtes.
On avait l'habitude.
Allez, supportez-nous, si vous voulez, c'est bon, c'est fini.
Toujours.
C'est bon.
Je sais, nous, on est champions
d'Afrique. Voilà, enfin une occasion. Enfin une occasion pour la Norvège avec le centre de Sorloth de la droite, pied droit, le centre du Colchonero et la tête d'Erling Haaland qui va au-dessus de Guéladoué, tête piquée, mais là ça manque encore de puissance et de précision pour battre Yaya Fofana. Mais enfin, enfin la Norvège repart à l'attaque, toujours 0-0, 37e minute de jeu ici à Dallas entre la Côte d'Ivoire et la Norvège.
Vas-y Soulé, je t'en prie.
Non, non, mais moi je disais que mais le Maroc, depuis le Qatar, ils ont.
Non, mais arrête de mentir là, maintenant.
Non,
je déconne.
Et qu'ils ont passé un cap, et on le voit. Après cette Coupe du Monde, ils ont enchaîné une série d'invincibilités, je crois, qui perdure encore, puisque la finale, ça compte pas, parce au temps additionnel, ça reste en match nul. Donc. On voit que le Maroc a passé un cap, et moi c'est surtout ce que j'ai aimé, c'est surtout cette force de caractère qu'ils ont eu, parce que c'est quand même les Pays-Bas, quoi. Tu menais 1-0, tu réussis à ne rien lâcher et réussis à égaliser pour aller gagner même au tir au but.
Ouais.
C'est pas n'importe qui peut faire ça. Donc félicitations aux Marocains, et encore une fois je suis content aussi pour les Marocains, parce que voilà, ça reste une nation africaine aussi. Et que ça montre encore que le football africain en train de hausser leur niveau.
Un grand merci à Edgar Grollo. Et on va retourner tout de suite à Dallas, parce que le match s'anime entre les Ivoiriens et les Norvégiens, Jérôme Sion.
Ouais, avec des Norvégiens, ça y est, qui se sont réveillés. 38e minute de jeu à Dallas, 0-0 entre la Côte d'Ivoire et la Norvège. Et on a vu un bon déboulé de Noussa qui a été interrompu par la défense ivoirienne, mais ça continue d'attaquer pour les Vikings sur le côté droit avec Sørloth. Repasse par Ødegaard, le capitaine de la Norvège, avec Sander Berge désormais qui évolue à Fulham et qui va finalement repasser par Ødegaard dans la moitié de terrain de la Côte d'Ivoire après une longue phase de domination de la Côte d'Ivoire. Eh bien, dans ces dernières minutes, les Norvégiens se réveillent un petit peu. On a donc vu la tête d'Erling Haaland. Et puis, on a vu également donc Noussa et Patrick Berg se jouer de Nicolas Pepe et de Guéladoué sur le côté gauche de l'attaque norvégienne. Ça repart avec Wolf. Noussa, on le retrouve, l'attaquant de Leipzig face à Guéladoué. Il préfère repasser derrière lui avec Patrick Berg. L'ancien Lensois peut décaler maintenant Ødegaard. Il est plein axe à 30 mètres du but. Il remet sur Noussa qui a un petit peu de temps pour s'organiser dans la surface. La frappe de Noussa et le but. Le but de Noussa, 1-0 pour la Norvège. Oh, le plat du pied enroulé, lucarne opposée magnifique. Quel but d'Antonio Noussa. 1-0 pour la Norvège qui prend une option magnifique en vue de retrouver le Brésil en huitième de finale.
Quel but norvégien, Jérôme, incroyable. Ils étaient en difficulté face à la Côte d'Ivoire, et là, but sublime inscrit par Noussa.
Ouais, mais on revient
Jérôme,
le début de match, voilà, exactement. manque d'agressivité, il laisse jouer cette équipe norvégienne. Là, t'es à 20 mètres de ton but, tu dois forcément sortir sur lui. Là, tu lui laisses la possibilité à Moussa de venir, de rentrer deux fois sur son pied droit. Et derrière, après, qu'est-ce que tu veux finir. C'est des joueurs de très haut niveau. Là, il envoie une balle. Elle vient mourir dans la lucarne opposée. Le but, il est fantastique. Mais encore une fois, tu peux pas défendre comme ça. Non. Si tu es attentiste, t'es pas à l'abri de te faire surprendre.
Ouais, après, pour sa défense à Nicolas Pepe, faut pas oublier que c'est pas un défenseur aussi. Tu sais,
c'est l'ensemble de l'équipe. Sur l'ensemble, c'est ce qu'on avait dit depuis le début.
Ils étaient un peu attentistes et moi, ils mettaient pas assez d'agressivité sur le porteur.
Dès le départ, là,
tu vois, on voit qu'ils mettent pas d'agressivité sur le porteur de balle.
Mais il l'avait très bien fait pourtant depuis le début du match. Nicolas Pepe venait tout le temps aider Guéladoué. Il y avait beaucoup d'agressivité. Ils ont empêché Noussa de passer depuis le début du match. Et la seule fois où ils ont laissé à Noussa 2 mètres d'avance, bim, ça fait but derrière. Mais sinon, franchement, le travail défensif de Nicolas Pepe, ok, là il est un tout petit peu loin, mais sinon il faut vraiment saluer son investissement.
Là, c'est du 1 contre 1. Et c'est pas son métier, le 1 contre 1.
Non, mais moi,
en temps normal, il aurait pas.
Mais quand tu vois Nicolas Pepe qui est dans la surface défendre, c'est qu'il y a un problème collectif.
Exactement.
Tu vois, Pepe doit jamais être là à défendre aussi bas.
Contre un
ils doivent être déjà bloc médian s'ils veulent attendre un petit peu et mettre l'agressivité sur le porteur du ballon où ils ont laissé cette passe dans l'axe filtrée. Et une fois que la passe filtrée elle est partie, que ça va sur un côté, tu as Pépé qui vient dans la surface, il peut rien faire. Hein. Pépé, c'est pas un défenseur de métier.
Voilà, exactement, parce que en tant que défenseur, tu dois te forcer à le.
Attention, le centre de garde avec Sorloth et avec Erling Haaland, la balle de 2-0 et le sauvetage de la défense ivoirienne. Oh là là, le sauvetage d'Ibrahim Sangaré. Oh, la balle de 2-0 pour les Norvégiens avec ce petit ballon de Degaard dans la surface. La remise de la tête de Sorloth et Erling Haaland. Il est tout seul, il arrive à reprendre ce ballon et il faut le retour. In extremis d'Ibrahim Sangaré pour venir contrer la reprise du joueur de Manchester City. Bon, de toute façon, il me semble que Fofana était sur la trajectoire. Mais nouvelle énorme opportunité pour les Norvégiens. Ouais, le corner à suivre.
Ils peuvent dire merci. C'est qui vient la sauver là?
Sangaré.
Ah ouais, bah, ils peuvent lui dire merci parce que franchement, il fait un miracle.
Oh, le corner de Berg! Oh là 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 là, la balle de 2-0 encore avec ce ballon qui a été coupé par Sorloth. Premier poteau, tête décroisée. Personne ne ferme au deuxième poteau alors que le but était grand ouvert. Nouvelle opportunité de doubler la mise pour les Norvégiens. On en reste à 1-0 pour la Norvège et il reste 3 minutes avant la mi-temps.
Il est temps que ça se termine pour les Ivoiriens cette première mi-temps parce que ils prennent la marée.
Il y a un autre joueur, Jérôme, qui monte en puissance, c'est Odegaard, parce que c'est lui qui au départ de l'action sur le but, Odegaard, c'est le pied gauche, c'est lui qui met le centre sur Sorloth pour la remise pour Erling Haaland.
Odegaard, il a une saison compliquée avec Arsenal. Le début de saison était fantastique, après il s'est blessé.
Exactement.
Il a eu du mal à revenir, mais si Arsenal est champion d'Angleterre et a été en finale de la Ligue des Champions, c'est aussi parce que ils ont eu un capitaine qui a été là sur les gros matchs. Ça reste un joueur d'une grande qualité, il a un super pied, une belle vision du jeu, et là sur les phases arrêtées il te met la balle où il veut hein. Donc en plus il y a du gabarit, on en revient à la même chose, Younes et Soulet, si l'agressivité, s'ils défendent pas mieux que ça, ils vont en prendre d'autres hein.
Ils sont passifs, ils laissent le jeu se développer, surtout sur les côtés, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec Odegaard qui a un pied qui est exceptionnel.
Allez, la récupération, Younes, justement, là, de Nicolas Pépé, avec le bon pressing de Nicolas Pépé. Il a pu transmettre à Anjouan Boni, ça a failli arriver jusqu'à Yann Diomandé. Récupération d'Inao, Christinao qui peut s'appuyer de nouveau sur Franck Essier. Le ballon de Ghislain Konan, le centre du latéral de Gilles Vicente, contré. Le corner pour la Côte d'Ivoire avec la réaction des éléphants. Et là, Nicolas Pépé, on l'a vu encore au pressing, on l'a vu contrer. Moi, je vous trouve dur hein, avec les Ivoiriens parce que franchement, ils font un gros travail défensif. Une fois, c'est vrai. Et, ça a peut-être manqué un tout petit peu d'agressivité.
Ils ont failli en prendre deux ou trois là.
Allez, le corner de Yann Diomandé de la gauche. C'est boxé par Nuland pour éloigner le danger. Il reste une minute dans le temps réglementaire de cette première période. 1-0 pour les Norvégiens, mais ça va revenir tout de suite avec ce ballon pour Franck Kessié dans la surface. Le centre-pied gauche, il est passé derrière le but. Est-ce que ça a été touché par Erling Haaland? Non. Si, ce sera bien un corner en faveur de la Côte d'Ivoire.
Et il reste une minute dans le temps réglementaire de la première période.
Il est bon ce Diomandé hein, quand même, parce que là je regarde, t'as vu hein, Younes, encore la petite passe bien décalée. Il est percutant, il peut jouer simple et tout. Techniquement, il est quand même très sûr. Hein.
Il correspond au jeu de Luis Enrique.
Écoute, on va lui faire confiance, ils le veulent. Donc à mon avis, Luis Enrique, il a montré que. Il se trompait pas en général.
C'est vrai.
Nicolas Pépé pour le corner de la droite. Attention, il y a un joueur ivoirien qui a été tiré par le maillot en pleine surface de réparation. Je crois que c'est Emmanuel Agbadou. Et on va demander, les joueurs ivoiriens en tout cas se dirigent vers l'arbitre vénézuélien Jesus Valenzuela pour lui demander de revoir ce qu'il s'est passé dans la surface de réparation. Les supporters également se sont levés dans le Dallas Stadium. Alors, que s'est-il passé?
C'est un peu exagéré, la vitesse réelle.
C'est peut-être ça qui va lui.
Il ne peut pas siffler pénalty là-dessus.
Franchement, comment ils utilisent la VAR sur cette Coupe du Monde, moi je dis bravo parce qu'il n'y a pas de fioriture. Hein.
On ne perd pas de temps.
Non, on ne perd pas de temps, tu n'y vas pas, vas-y, hop, allez, il y a un contact, c'est pas grave.
Non. On respecte la règle, il faut vraiment que ce soit une erreur manifeste. On répète que c'est ça dans le règlement à la base. Et malheureusement, on avait vraiment détourné un petit peu ce règlement depuis quelques années. La petite faute de Noussa sur Geladoué, ils finissent bien les éléphants. Il va y avoir un bon coup franc aux abords de la surface de réparation, quasiment à l'angle de la surface, à 25 mètres de la cage de Nuland. Ils finissent mieux là. Ils ont réagi en tout cas depuis l'ouverture du score norvégienne et après avoir eu 2-3 minutes où ils auraient pu en prendre un deuxième.
Et on va le suivre, ce coup franc. La dernière opportunité pour les éléphants ivoiriens d'égaliser face à la Norvège dans cette première période à Dallas, le 16e de finale de Coupe du Monde. On rappelle l'événement ce soir, 23h, France-Suède en direct sur RMC. Mais on va suivre cette dernière opportunité pour les Ivoiriens. Jérôme Sillon avec Souley Diawara, Younes Belhanda et Jérôme Breton.
4 minutes supplémentaires ici à Dallas. Déjà une de passée. Ouais. Et le coup franc, pied gauche, bon moment, pour Nicolas Pépé. Ouais, c'est le bon moment effectivement pour revenir dans cette partie. C'est parti pour Nicolas Pépé au point de pénalty. Oh, la belle tête ivoirienne qui passe à côté. Oh, quelle occasion d'égaliser là. Ça passe vraiment tout près du but de Nuland, cette possibilité là sur ce coup franc. C'est la tête d'Emmanuel Agbadou qui est venu passer juste à côté du but norvégien. Toujours 1-0 pour la Norvège. Le but de Noussa qui, dans son face à face à distance avec son coéquipier de Leipzig, Yann Diomandé, pour l'instant c'est lui qui a marqué. Antonio Nousset tout à l'heure d'ailleurs, il a pris un carton jaune également pour la faute sur Nicolas Pépé. Le dégagement à venir, ouais.
Heureusement qu'elle n'est pas cadrée, on regarde le ralenti là. Heureusement que c'est pas dans le cadre parce que le gardien était au frais.
C'est pas un point fort, hein, on va pas se mentir. Nuland, c'est pas le meilleur gardien de l'histoire.
Parle bien son nom. Je croyais que c'était Lucas Zidane dans les buts.
Je prononce à la norvégienne, hein, sinon on dirait Nyland en français, mais c'est vrai.
C'est mieux Nyland. Ouais, c'est mieux.
Nyland, ouais.
Il est à Séville, il est même pas titulaire à Séville. D'ailleurs, il n'a jamais été titulaire dans les clubs par lesquels il est passé, que ce soit Aston Villa, que ce soit Leipzig ou même à Séville. Il a joué que 7 matchs cette saison. C'est vraiment un gardien par défaut, hein, côté norvégien. Il y a peut-être à en profiter pour les éléphants. Encore 1:30. Dans le temps additionnel de la première période, le ballon pour Berge avec Pedersen sur le côté droit de l'attaque norvégienne. On est au niveau de la ligne médiane et on fait tourner ce ballon avec Christopher Ayer. Pedersen qui ne parvient pas à progresser. Le bon pressing des Ivoiriens avec notamment Christine Ao qui vient chercher très haut le ballon dans la profondeur en direction d'Alexander Sorloth. Mais là, c'est un ballon qui a été jeté par Pedersen et qui va être récupéré tranquillement par Agbadou. Et le dégagement de Yaya Fofana en direction de Nicolas Pépé. Très bon contrôle, mais en revanche, la remise laisse un petit peu plus à désirer. La touche à venir pour les Norvégiens. Les dernières secondes dans cette première période ici à Dallas, avec une remise en jeu pour David Möller-Wolf sur son côté gauche. La proposition de Patrick Berg qui joue à Bodø/Glimt, le club surprise de la Ligue des Champions cette saison, 8e de finaliste après avoir tapé des grands clubs notamment. La touche finalement pour la Côte d'Ivoire avec Guéladoué, Johan Boni qui tente de servir Nicolas Pépé. Ça revient sur Guéladoué, ce ballon qui est dans les airs, mis au sol par Ange Johan Boni, repris par Patrick Berg, et ce ballon qui va vivre maintenant dans les pieds de Sander Berge avec Christopher Ayer. Et à mon avis, les Norvégiens vont tranquillement conserver ce ballon jusqu'au coup de sifflet de l'arbitre vénézuélien pour siffler la mi-temps ici à Dallas dans quelques instants. Voilà qui est fait. La mi-temps à Dallas, et pour l'instant c'est la Norvège qui rejoint le Brésil en 8e de finale. Le but de Noussa à la 39e, mais il reste encore largement le temps de se refaire pour les éléphants ivoiriens.
Merci Jérôme Sillon. 1-0 pour les Norvégiens donc face à la Côte d'Ivoire à la pause à Dallas. La seconde période dans un instant sur RMC, et puis Christophe Dugarry va nous rejoindre pour parler de la situation dramatique des Girondins de Bordeaux. On l'a appris aujourd'hui. Décision tombée, décision de la part de la DNCG. Exclusion de toute compétition nationale à l'heure où on se parle. Bordeaux rétrogradé en Régional 1, même si le club a fait appel de la décision. A tout de suite sur RMC.
RMC, Rotten sans flamme. Intégrale Coupe du Monde.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
19h52 sur RMC, toujours dans Rotten sans flamme. On est dans les 10 dernières minutes de Rotten sans flamme. On va parler un peu de Ligue, non pas de Ligue 1, de football français avec les Girondins de Bordeaux dans un instant, avec Souley Diawara, avec Younes Belhanda, avec Benoît Boutron et Christophe Dugarry qui va nous rejoindre dans un instant. Bah, 1-0 pour la Norvège pour l'instant à la mi-temps contre la Côte d'Ivoire. La Norvège est pour l'instant qualifiée en 8e de finale de la Coupe du Monde. Et on rencontrera le Brésil, c'est ça.
Ouais, ça ferait un Brésil-Norvège en 8e de finale de Coupe du Monde. C'est loin d'être terminé parce que la Côte d'Ivoire s'est procuré pas mal d'occasions. La seconde période sera à vivre dans l'afterlife à partir de 20h. Christophe Dugarry nous rejoint dans Rotten for Flame. Salut Dugar.
Salut messieurs, salut les copains.
La sortie de la retraite.
Ravi de te retrouver, Dugar, pour
également
une actualité qui n'est pas drôle pour tous les supporters et les fans des Girondins de Bordeaux. On l'a appris donc cet après-midi. l'exclusion de la part de la DNCG du club des Girondins de Bordeaux de toute compétition nationale. Ça veut dire que à l'heure où on se parle, Bordeaux pourrait repartir en Régional 1 alors que le club était en CFA depuis National 2 depuis 2 ans. La faute à un trou de 9 millions d'euros. Il y a des solutions pour s'en sortir. Le club a fait appel de la décision. C'est toujours nébuleux parce qu'il y a toujours la façon de gérer très particulière de Gérard Lopez. Ton premier sentiment quand tu as vu la décision, est-ce que tu étais une nouvelle fois dépité par ce qui se passe dans ton club formateur?
Moi, j'avais l'impression que les choses allaient un petit peu s'arranger puisque le club allait être vendu. Bon, écoute, ça complique les choses. C'est sûr que c'est un accord entre trois parties. Il y a l'acquéreur, il y a le vendeur qui est Gérard Lopez et il y a la mairie qui est là,
omniprésente,
et qui a aussi son mot à dire. Donc c'est pour ça que les choses sont compliquées. Je pense que il y a déjà eu un accord entre l'acquéreur et Gérard Lopez. Donc ça, c'est à peu près clair, c'est à peu près écrit. Donc ça, je pense qu'il n'y a pas de problème. Mais le problème, il est avec la mairie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la location du stade, eh bien, écoute, c'est 1 million d'euros par an, ce qui est bien évidemment impossible pour un club de national. C'est une dette qu'a Gérard Lopez vis-à-vis de la mairie de 20 millions d'euros par rapport à la location du stade et les anciennes années aussi. C'est une volonté du futur acquéreur d'acheter le stade également à un prix, avec une promesse de vente à un prix qui paraît être bien pour l'acquéreur, mais un peu moins bien pour la mairie. Donc forcément, le maire vient d'être élu, donc lui aussi, il a des administrés, il a des comptes à rendre. Et c'est vrai que la situation n'est pas facile, parce que je pense que le maire ne veut pas avoir le sentiment et la sensation de faire un cadeau de 20 millions d'euros à Gérard Lopez, parce que c'est une dette que doit Gérard Lopez avec une garantie à la mairie. Donc ça complique forcément les choses. Il y a encore 2 semaines pour que les choses s'améliorent, s'arrangent. Sincèrement, c'est du 50-50. Moi, ça me paraît extrêmement compliqué que les trois parties trouvent un accord. Mais écoute, je reste malgré tout optimiste.
Il y a plusieurs solutions, hein, tu l'as dit, envisagées. C'est déjà le remboursement de la dette de la part de Gérard Lopez. On rappelle qu'il est associé désormais à un fonds britannique, donc Sparta Capital. Il y a, tu l'as dit, trouver un accord avec la métropole, donc baisser le montant de la location du stade qui pourrait servir là aussi.
Alors ça, c'est plutôt le nouvel acquéreur, Benoît. C'est le nouvel acquéreur qui propose tout ça, qui a des rencontres avec la mairie et qui essaie lui aussi d'avoir... Il veut reprendre le club dans les meilleures conditions, avec un avenir, avec un projet. Mais bon, ça correspond pas forcément avec ce qui s'est passé avec Gérard Lopez, avec les dettes de Gérard Lopez. Donc c'est Franck Tuil, qui est le propriétaire de Sparta Capital. Alors moi, je préfère donner son nom plutôt que de toujours donner des fonds d'investissement un peu
impersonnels. Mettre un nom sur des... T'as raison.
Voilà, Franck Tuil, c'est lui le patron, qui serait le futur propriétaire éventuellement du club si on arrive à trouver un accord. Après, aujourd'hui, il y a 9 millions à mettre. Si Gérard Lopez ne met pas les 9 millions avant les 15 jours annoncés, le club, il est terminé. Il a perdu tout l'argent qu'il a investi. Tout ce pourquoi il a pas voulu lâcher le club ces dernières années. Ça volerait en miettes. Donc il y a encore la possibilité que Gérard Lopez mette ses 9 millions d'euros et après que la vente se mette en place, mais c'est que cette garantie soit apportée. Aujourd'hui, la DNCG veut ses 9 millions d'euros. Voilà, il t'a beau tourner, virer,
il faut ses 9 millions.
Voilà, pour clôturer cette saison et pour assurer la saison prochaine. Donc voilà, qui va les mettre, toute la discussion est là.
Ça va pas renforcer les liens entre Gérard Lopez et la communauté bordelaise. Ça, c'est sûr, c'est le premier mot que tu m'as dit. D'ailleurs, Soulet, toi, ancien joueur des Girondins de Bordeaux, champion avec les Girondins, tu m'as dit le problème, c'est que Gérard Lopez est toujours là et ça n'aidera pas notre ancien club à avancer.
Comme tout le monde, j'ai suivi aussi l'affaire depuis le début parce que, bien évidemment, ça me touche aussi puisque passé 2 ans là-bas, j'ai passé 2 excellentes années aux Girondins. Donc, j'avais vu que Bordeaux allait être vendu. Je me suis dit, bon, voilà, si le club est vendu, ça va s'améliorer. Mais malheureusement, j'étais pas sûr par rapport à la mairie. Mais là, Duga a bien expliqué la chose. Donc, ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que Gérard Lopez doit une dette à cette mairie-là. Et on parle de 20 millions quand même. Donc, c'est sûr que la mairie... même si elle aime les Girondins de Bordeaux, ne va jamais s'asseoir sur les 20 millions d'euros. Donc,
ce qui est le plus dur, surtout pour des hommes politiques, surtout un maire qui vient d'arriver juste à présent, expliquer à tes administrés que tu as fait un cadeau de 20 millions d'euros à Gérard Lopez, forcément, c'est compliqué à faire passer auprès des administrés, auprès des Bordelais. Donc, c'est un dilemme important. Sincèrement, je suis assez inquiet, moi, pour tout te dire.
Jérôme?
Oui, bah moi j'écoute ce que les infos de Dugas, moi je les avais pas dans tous les
elles
cas.
Elles sont bonnes,
mais, poulet. Oui, oui, non, mais je te crois, non, mais je te dis pas qu'elles sont pas bonnes. Non, c'est pas du tout le sujet là-dessus. C'est juste moi ce qui m'inquiète, c'est tu vois l'état. Alors déjà l'état des Girondins, on en parle souvent, même s'ils étaient en National 2 ouais. Encore cette année, on en parlait souvent et on espérait tous.
Et ils le seront encore, hein, c'est juste que l'appellation change, mais ce sera toujours la 4ème ouais, division déjà, s'ils ouais, parviennent c'est
National
1, à rassurer c'est la
National 1 parce que maintenant il y a la Ligue 3.
Exactement.
Mais là, descendre en R1,
6 divisions. 6ème division,
c'est pas malheureux pour les Girondins de Bordeaux, qui a été les grands Girondins.
C'est terrible, Younes. Ah, tu ouais, les as croisés, toi, en championnat, bien sûr.
Bah, Chabon-Delmas, moi j'avais commencé là-bas à Chabon-Delmas. Donc voilà, après il y a eu l'Atlantique, le Matmut. Et tu vois, en fait, moi, c'est les critiques envers le Paris Saint-Germain après, ça me renvoie à ce Bordeaux, à Lyon, où tu vois, les Qataris, on les a beaucoup critiqués avec ce qu'ils ont fait. Ils ont ramené de l'argent, beaucoup d'argent, ils ont acheté. Plein de critiques, mais le PSG, que ce soit dans les finances ou dans tout, ils ont tout réussi. Et quand tu vois l'état de Bordeaux, de Lyon, quand Textor est arrivé, à Bordeaux, Gérard Lopez qui arrive, ils ont détruit des clubs emblématiques de notre Ligue 1. Oui. Et donc, il n'y a pas le droit à la critique avec le PSG, parce que quand tu vois comment le PSG est devenu, et ce qui est devenu Bordeaux et Lyon ces dernières années, plus Bordeaux avec cette descente, eh ben tu n'as pas le droit à la critique sur ça.
Younes, tu parles des Qataris, mais tu peux prendre l'exemple marseillais. Hein. Franck McCourt, l'actionnaire, qui met des dizaines et des centaines de millions d'euros depuis 10 années.
C'est flamboyant quand c'est des Américains qui arrivent, donc on se dit, c'est les Américains. Ouais. Donc voilà, tout le monde a le rêve américain. Mais non, c'est la réalité de ça.
Ouais. Moi, Younes, ce qui me frappe le plus, c'est comment un seul homme peut arriver à faire couler un club aussi redonné. Ça a failli se passer à Lyon avec Textor. Ouais. Là, ça a été Gérard Lopez. Alors, il n'a pas toutes les responsabilités, bien évidemment. Hein. Il est pas le seul. Oui. Mais quand même, il symbolise tout ça. Il a pris le club en Ligue 1. Aujourd'hui, le club, il se retrouve là où il est. C'est terrible. Où sont les garde-fous qui auraient dû exister? Où sont justement la mairie qui doit s'exprimer à un moment ou un autre et prendre aussi ses responsabilités? Les vendeurs, les acquéreurs. Enfin, voilà, il y a l'espèce de micmac. Il y a des escrocs qui se retrouvent aujourd'hui dans le foot. Alors, je parle pas pour Gérard Lopez. J'ai pas suffisamment d'éléments pour accuser qui que ce soit non plus. Mais avant lui, il y en avait des escrocs aussi là. La bande là des fonds d'investissement là qui ont débarqué là,
les GACP
là. Ah, voilà, oui, c'est GACP là.
Tout ça là. Ah, oui.
Voilà, lui, Joe D'Agrossa. Alors lui, pour le coup, lui, c'était un escroc. Lui, un vrai de vrai, il n'y a pas. Voilà, ça c'est. Il y a quand même des choses qui sont incroyables à vivre pour notre club ces dernières années, c'est terrible.
Dugas, on te remercie pour cet éclairage. On croise les doigts pour les Girondins.
Et bravo pour la Calif en 8e.
Et bravo pour le Maroc. Ouais. Lima Magli. Un grand merci à Younes Belhanda.
Bravo Younes. C'est tout droit. C'est dans deux jours. C'est tout droit avec le Sénégal.
Dans un instant, la seconde période de Côte d'Ivoire.
Et nous, en espérant parader le virage ce soir. Parce
ce soir, c'est France-Suède.
On va passer pour des cons. Ce soir, France-Suède.
Et tout droit.
On est là, 23h sur RMC. Demain, on vous débriefe tout ça. La meilleure émission du PAF, c'est dans Rotten sans flamme. C'est demain à 18h. Pour les bonnes critiques sur ce match, vous inquiétez pas, on sera là. Bisous, bonne soirée, régalez-vous, restez à l'écoute des RMC et profitez de la Coupe du Monde. Bisous, bisous.
RMC, Rotten sans flamme, intégrale Coupe du Monde.
Vous avez aimé l'émission ? Écoutez tout de suite ce que vous n'avez pas entendu sur RMC. Écoutez le carnet de notes.